Bonjour tout le monde, on est reparti pour... C'est le deuxième podcast, et toujours les mêmes cons derrière le micro. Sébastien d'un côté, Occasion.
Et Marc de l'autre, Aka Clandestino.
Voilà, alors il fait beau, il fait chaud, il y a un grand soleil, et c'est pour ça que nous on s'enferme à l'intérieur pour enregistrer le podcast. C'est ça un informaticien.
Oui, absolument, mais bon, on espère quand même que vous appréciez le sacrifice, parce que partout ce n'est que... barbecue et jolie jeune fille dévêtue et nous on est là.
Voilà.
À côté de chez moi ils sont en train de bien barbecuter et effectivement c'est pas fort vêtu.
Écoutez, je suis désolé les gars, le deuxième podcast a duré donc à peu près 45 secondes. Rendez-vous la prochaine fois pour plus d'infos. Alors, j'avais au moins deux gros sujets à parler, entre la 3DS, Groupon, et puis on a pas mal de petites news à égrener, parce que ça fait longtemps qu'on s'est vus, hein, désolé.
Oui, les informaticiens, ça prend des vacances, si, ça arrive.
Oui, la première de l'année, désolé. Et donc oui, il y a eu pas mal de news autour de Google et d'autres choses dont on va essayer de décortiquer un petit peu l'info des dernières semaines. Alors, d'abord, on commence avec un peu de jeux vidéo, hein, la 3DS. Tout le monde en a parlé, reparlé et reparlé. On a joué un peu avec.
On a eu l'occasion de l'avoir un peu en main. On avait déjà eu l'occasion, en fait, de l'avoir en main lors du pré-launch event qui avait eu lieu il y a quelques mois où là aussi, bon, c'était un petit peu la situation. On s'était retrouvé avec des gorilles de 2m20 baraqués comme
Hulk Hogan. Tu rigoles, c'était des petites hôtesses d'1m60.
Et attends, il faut entretenir le mythe, quoi. Franchement, oui. L'informaticien qui va courageusement chercher l'info. Non, sans deck. Il y avait un embargo énorme. Il était hors de question de dire ne fût-ce que 3DS. On n'avait même pas le droit de la photographier.
Si on pouvait en parler, mais on ne pouvait pas faire de photos. On pouvait pas, ouais. Et alors, on avait, pour certaines, même pas le droit de les toucher.
Exact.
C'était même pas des pré-samples encore, c'était encore du proto de chez proto. Mais ça ramait pour certains jeux à l'époque, cette version-là. Et la finale, parce que je l'ai essayé quand même pendant ma petite semaine de vacances, la finale ne rame plus autant.
Non.
C'est déjà quand même un bon signe, non ? Donc ça, c'était les jeux étaient relativement fluides. J'ai essayé un truc de bagnole, un truc de combat. Bon, c'était horrible, les combats, j'ai abandonné après 2 minutes, c'est vraiment pas mon trip. Mais ça, c'est pas la faute à Nintendo, par contre. La qualité de l'écran, elle me semblait inférieure au pré-sample qu'on avait eu. Mm-hmm. La 3D était pas si terrible. Enfin, pas si terrible. Hein, ça reste de la 3D sans lunettes. Mais c'était assez difficile, le champ de vision. Hein. On doit vraiment être bien en face de l'écran si on veut espérer avoir de la 3D. Et ça, c'est ce qui est désagréable.
Alors moi, ce que j'ai eu comme retour, je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer moi-même personnellement, mais j'ai eu comme retour en fait que bon, la 3D c'est assez sympa, le principe est bien, mais finalement l'innovation technologique en tant que telle n'est pas si révolutionnaire que ça. Tu mentionnes le fait qu'il faut vraiment être bien calé dans l'axe, c'est un fait. Moi, je connais des gens qui ont quand même reporté le fait qu'il y a des gros problèmes de migraine après une demi-heure de jeu.
La migraine, ça allait, mais ça fait mal aux yeux.
Oui, on s'étonne un petit peu qu'ils aient mis un produit. Maintenant, bon, vu le public visé, c'est un public plus jeune qui s'adapte mieux.
En fait, non. Non. Si tu lis les précautions d'emploi sur la 3DS, j'étais assez étonné parce que j'avais mes nièces avec moi en vacances. Et elles, qui sont grandes consommatrices de jeux vidéo déjà à 3 ans et 4 ans, elles jouent déjà avec la DS. Et la 3DS, c'est écrit en gros, en rouge sur la boîte, interdit avant 6 ans, ou si c'est des jeunes avant 6 ans, il faut bloquer la 3D.
Ouais, ben pourquoi pas, après tout.
Parce que, voilà, ça va leur bousiller leurs pauvres petits yeux. Et donc, ben voilà, les gamines qui voyaient le tonton en train de jouer avec la console, le tonton qui voit le gros mention « pas pour les enfants », les enfants qui pleurent, hein, vous voyez les vacances, hein, merci Nintendo.
Voilà, exactement. Peut-être ça, Nintendo, fournisseur officiel de Afflelou, Pearl, etc. Non, même pas.
Oui, si, ça si, fait si. Quand même un peu mal aux yeux. Mais,
non, j'imagine.
Mais après, je vais pas totalement casser la 3DS parce que j'ai joué à un jeu de bagnole dont j'ai déjà oublié le nom. Hein. Ça, c'est la triste mémoire des informaticiens. Mais l'immersion était assez bonne. Après 1 ou 2 minutes, on se rend même plus vraiment compte qu'on doit faire attention à regarder l'écran. Et c'était loin d'être désagréable. Mais
tu parles d'immersion, j'en profite pour rebondir un peu là-dessus, parce que c'est la première console 3D ou pas, qui procure quand même une expérience immersive totale, parce que grâce à ça, vous avez même l'impression d'être derrière Windows, parce que oui, la 3DS a même son BSOD. C'est pas une blague.
Oui, mais
Ouais.
j'ai pas encore vu les
Non.
pseudo-vidéos ou des photos qui le montraient.
Non, il y en a effectivement. Et c'est un problème qui apparemment commence à apparaître de manière récurrente sur un certain nombre de modèles. Nintendo n'a pas encore communiqué là-dessus vraiment. Ils
Ah,
n'ont
c'est pas
pas
la
encore
première console, hein,
trouvé,
qui...
c'est pas la première console, mais apparemment c'est quelque chose qui apparaît totalement indépendamment du type de jeu. C'est un truc qui apparaît sans aucune raison valable, de manière aléatoire. Et voilà, donc la Nintendo a son Black Screen of Death. C'est pas un blue screen ici, c'est un Black Screen of Death. Mais pour une console qui est quand même toute neuve, qui doit faire sa maladie de jeunesse, ça fait un peu tâche quand même pour quelque chose qui est censé être une révolution dans le jeu et qui est censé avoir été testé de fond en comble et en travers par les ingénieurs
Ouais, je
de
suis pas d'accord.
Nintendo.
Si tu te souviens de la Xbox, la 360, quand elle est sortie, pendant des mois et des mois, on a entendu parler de ce fameux lecteur de DVD qui était tout pourri, hein,
Oui, mais enfin, ça c'était un
et qui
problème
rayait les
hardware.
disques.
Oui, c'était un problème hardware.
Oui,
Et de
mais
toute
c'est pareil,
façon,
les ingénieurs. Hein.
le problème était connu. Ici, jusqu'à maintenant, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Effectivement, pas mal d'articles font référence au fameux Red Ring of Death de la 360.
On en reparle, les pauvres Microsoft ont pensé avoir oublié que leur console avait eu des problèmes à l'époque.
Ah, mais je crois que ça a ruiné Ça a ruiné les nuits de centaines de millions de joueurs, donc ouais, désolé les mecs, hein.
N'empêche, si on revient dans les news d'ailleurs pour la 3DS, je vois quand même que le vendredi 1er avril, je pense pas que c'était loin d'être une blague, contrairement à la loi Hadopi belge, hein, désolé tout le monde. C'est que Nintendo a déjà réussi à vendre 303 000 consoles 3DS en 2 jours.
C'est pas mal, c'est un beau
Les
petit
deux
chiffre,
premiers jours
effectivement.
de la console, dont 113 000 en Grande-Bretagne, ce qui est quand même pas mal. Hein,
C'est quand même pas mal, effectivement. Reste à voir ce que ça va donner. Je ne sais pas quelle est la base disponible au niveau des titres.
J'ai déjà vu passer plus d'une dizaine de titres, en tout cas en jeu, en test, donc ça a l'air de suivre au niveau sortie.
Ah bah encore une fois, désolé Microsoft, on fait toujours un parallèle avec vous, mais ça fait déjà mieux en matière de fourniture de jeux que l'offre qui était disponible à la sortie de la Kinect. Soit.
Ouais, c'était pas mal de trucs musicaux. Enfin, mais
Très démo,
ici,
quoi.
il y en a plus, il y en a plus, mais faut pas oublier une chose, une grosse différence entre Nintendo et Microsoft, c'est que Nintendo est éditeur.
Oui.
Et donc ils ont la console et en même temps ils sortent leur propre jeu et leur licence. Et ils ont pas mal de petites choses. Par contre, j'ai vu un Street Fighter, j'ai testé un Street Fighter sur la 3DS et honnêtement, enfin ouais, voilà quoi.
Non, même pas la peine.
Non, non. Bon, allez, il y
Pourquoi
en
est-ce
aura
qu'on
peut-être qui
veut
aimeront, hein, mais...
continuer cette
Cette série de
licence
Street Fighter.
pourrie, quoi?
Je ne sais pas, à l'époque, mais il y a peut-être 20 ans, c'était amusant, mais maintenant Street Fighter, voilà,
Non, c'est
c'est...
complètement dépassé, quoi.
Oui.
Soit.
Alors, autre sujet un peu plus amusant, polémique, tout ce qu'on veut, Groupon. Alors, je ne sais pas si certains se souviennent qu'il y a une début de la semaine, ça doit être quelque chose comme ça, j'avais posté une news où il y avait une dame qui se plaignait d'avoir été arnaquée.
Oui, c'était pas le premier cas dont on avait été averti d'ailleurs. Il y avait eu d'autres rumeurs d'arnaque de la part de Groupon. Maintenant, arnaque ou pratique commerciale un peu sur la tangente, parce qu'apparemment ces gens ont une manière très personnelle d'interpréter le business et les conditions de deal. Mais c'est vrai que ce que cette dame dénonçait, et elle est d'ailleurs récemment, si tu me rappelles bien, elle est passée
Elle est
hier.
passée hier à la
Elle est
RTBF,
passée
donc
hier
hier
à la
1er avril,
RTVF.
tout à fait, une conférence de presse où Groupon était aussi dans la conférence de
Et ce n'était
presse.
pas un poisson.
Non, non, et quand on voit les images, c'est vrai que certains avaient l'air plutôt mal à l'aise. Voilà, elle parle d'abus de confiance, après, elle pensait avoir vendu un bon de 200 euros pour un minimum d'achat de 500 euros, et en définitive, les consommateurs arrivaient dans le magasin en agitant le bon de 200 euros et disaient voilà, je veux juste quelque chose de 200 euros. Ils achetaient des bougies, des trucs comme ça, et puis ils sortaient. Alors
Voilà.
qu'en fait, sa marge bénéficiaire sur ces... Enfin, elle s'en sortait pas, elle vendait à perte.
Donc tout ça en fait relance le débat sur le volume, enfin les achats en masse et les achats groupés. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour les commerçants, pour les petits commerçants, puisqu'ici on parle vraiment d'une cible bien délimitée, bien targetée. Voilà, ce sont des
C'est
pratiques
sûr, c'est sûr,
commerciales.
parce que c'est, y a des choses qui existent depuis des années avec ça, hein. Tu es d'ailleurs, toi, grand fan de Hibou et compagnie. Et donc, l'achat groupé existait avant Groupon et existera encore après Groupon, mais ici, ils sont dans un créneau qui est beaucoup plus agressif vis-à-vis du commerçant. Et ils sont, il y a eu un reportage d'ailleurs sur Envoyé spécial qui vaut la peine de
Exactement, oui.
regarder. C'était la semaine du 20 ou 24 mars ou quelque chose comme ça. Enfin, ça doit pouvoir se retrouver assez facilement. Où le tout premier de leur reportage était là-dessus. Et on voyait une gentille démarcheuse qui arrive dans un salon de beauté, je pense, où la dame vendait quelque chose à plus de 300 euros. Un petit peu agressivement, elle dit oui, non, ce serait bien de mettre quelque chose à 99 euros, c'est psychologique, c'est bien. Et puis, quand justement la vendeuse est d'accord, la démarcheuse de Groupon lui annonce que bah, c'est 50-50. Sur les 99 euros, en gros, il y a la moitié qui va à Groupon, l'autre moitié au commerçant, et seulement quand le commerçant a presté la prestation. Donc.
La totalité de la prestation qui a été négociée. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que même si ça, ce sont les règles que Groupon met en place, ils vont encore plus loin dans le sens où le cas de la dame qui nous intéresse ici, eh bien, au moment où le commercial de Groupon apparemment est sorti du magasin après avoir négocié le deal, il lui a juste dit de manière extrêmement évasive, oui, tiens, au fait, les 200 euros, finalement, ça sera pas 50-50, ça sera tout pour nous, parce que vu le
Non, ça
volume
c'est
que
le
vous allez
deuxième
faire.
deal. En fait, elle avait fait deux deals et elle expliquait que son deuxième deal, c'était 100 euros pour 4 heures de coaching,
De coaching déco, oui.
d'éco, c'est ça. Et
Ouais.
que dans ces coachings, bah, Groupon considérait qu'elle allait réussir à vendre des meubles à elle, donc faire de l'argent là-dessus, alors qu'il prenait les 100 euros en 100% pour eux. Du moins, c'est ce qu'elle a expliqué sur Facebook. Et en définitive, les gens, ils voulaient juste le coaching. Elle réussissait à rien vendre du tout, alors qu'elle était occupée de pouvoir travailler gratuitement pendant 6 mois. Mais c'est,
Exact.
je sais pas si tu te souviens du nom de l'article. C'était Groupon, l'envers du décor. Voilà. Donc
Groupons l'envers
cherchez
du
Groupon
décor.
l'envers du décor. Vous allez peut-être tomber sur. Ah ben voilà, le deuxième lien, c'est informaticien.be. Et là-dessus, vous retrouverez le lien vers Facebook de la dite commerçante. C'est assez intéressant à lire. T'as encore des choses à dire sur Groupon? Tu veux me dire ou d'autres
Je ne veux pas médire parce que bon, de toute façon, moi j'estime que dans ce genre d'affaires, bon, c'est certain, on est face à des pratiques commerciales qui ne sont pas forcément celles qui sont recommandées par une bonne pratique économique, mais bon, chacun a sa façon d'envisager le business, il n'y a pas de loi contre ça.
Oui, non, il y a déjà eu
Il y a déjà eu d'autres précédents,
d'autres
et
précédents
bon,
avec des ventes de sites web en Belgique qu'on ne citera
voilà.
pas tout de suite. Mais
Exactement. Mais ce qu'il y a, non, ce qu'il faut dire maintenant, 2 secondes, sérieusement, ce qu'il faut dire, c'est que vous, petits commerçants, si vous nous écoutez, si vous avez l'intention de vous associer avec une société qui vous propose des ventes groupées et d'augmenter votre volume, d'accord, ça peut vous rapporter pas mal de trucs intéressants, mais par pitié, lisez les contrats, épluchez-le, parce que généralement, on se dit toujours, oui, d'autres l'ont fait avant moi, donc c'est profitable, donc c'est intéressant, donc c'est un truc sympa à faire. Lisez les petits caractères. Généralement, c'est là que ça merde, c'est là que ça merdouille, c'est là que se cachent les petites subtilités qui peuvent permettre à un Groupon de vous dire, mais attends, tout ce que tu as fait finalement, c'est pour moi. Toi, tu as ta marge à côté, ça ne me regarde pas, mais tout ce que tu as fait comme chiffre, c'est pour moi. Donc, quelque part dans ce genre d'affaires, c'est triste à dire, vous avez aussi une responsabilité si ça merdouille.
Oui, mais dans les mêmes genres, les braves commerçants qui n'ont en général pas le temps de lire, on leur envoie des arnaques aux annuaires. Enfin, c'est tout un autre débat, mais il y en a des dizaines
Des
tous les mois
dizaines,
qu'on
exact.
reçoit avec pour des domaines. Domaines, je sais plus comment ils s'appellent.
Domain renewal, ça j'en reçois en moyenne un par mois sur ben, quasi tous les domaines que je gère pour mes clients. Et si je les suivais, ben avec ces types, je dois sortir 300 ou 400 € par mois, quoi. En
C'est
renouvellement de domaine, c'est hallucinant.
du vol qualifié et malheureusement, ces
Absolument.
sociétés, on ne sait pas les arrêter. Au niveau news du moment, alors qu'est-ce qu'on a encore comme sortie? On a des tablettes Acer et c'était une conférence de presse que j'ai suivie tout seul comme un brave, enfin en tout cas sans marque, cette semaine. pense que c'était jeudi, où Acer nous a démontré. Bon, d'abord, ils nous ont aussi fait une démo de quelques smartphones Android qu'ils allaient rajouter à leur gamme. Honnêtement, j'étais pas super, super convaincu parce qu'ils nous ont sorti trois modèles. Un BitTouch 200, un machin mini. En gros, ça, c'est de l'entrée de gamme qu'ils essayent d'avoir à 189, 199 euros pour essayer d'avoir monsieur tout le monde, un public plus jeune. Et le liquide mini, ce qui était surtout important, c'était qu'il y avait 9 couleurs. Hein, donc, tu vois, vraiment, ça, c'est de l'argument qui tue.
Oui, ça me rappelle toujours chez Acer d'ailleurs, un certain GSM, enfin un smartphone de
Le
la mort qui
Ferrari.
tue Ferrari, voilà, tu te
Tout à fait, mais
rappelles?
qui est toujours en vente, hein.
Oui, qui est
D'ailleurs, ça, c'est
toujours en vente.
le haut de gamme, et maintenant, dans le bas de gamme, si je peux dire, parce que 189 euros, c'est quand même pas donné non plus. Mais là, c'est le Liquid Mini qui va être normalement, essentiellement ou exclusivement distribué par Mobistar. Puis, il y a le E210, le BitTouch, où là, ils ont un petit peu surfé sur la blague. La blague.
La
C'est samedi, on est
vague.
fatigué. La vague BlackBerry avec un gros clavier et en même temps un écran tactile et en Android 2.2. Bon, personnellement, j'aime pas trop le look, mais il y en a qui vont aimer.
Tiens, je profite du fait que tu mentionnes Mobistar pour faire une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec Acer, mais qui intéresse aussi le monde des smartphones. Il semblerait qu'en fait Mobistar soit sur le point de perdre sa licence d'exclusivité avec Apple pour la distribution de l'iPhone, parce on a vu sortir en fait de manière totalement fugace, mais vérifiée, une pub de Telenet qui annonce la disponibilité de l'iPhone 4 via leur réseau. Donc c'est pas impossible que l'exclusivité Mobistar touche à sa fin et qu'on commence à voir des accords de partenariat d'Apple avec d'autres réseaux de distribution. On pourrait se prendre à espérer des accords avec Proximus, avec Baize, etc., qui permettraient de démocratiser un peu le prix des abonnements dédiés pour ce genre
Mais
d'appareil.
qu'est-ce qu'ils ont comme, accord avec Mobistar? Parce que si tu regardes, j'ouvrais pendant que tu racontais ta vie le site de Coolblue, là ils vendent des iPhones.
Oui, mais sans abonnement dédié.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Donc là tu veux dire des abonnements
Ce
liés,
serait pas qu'en
il n'y a
abonnement
que
lié.
Mobistar qui le fait.
Exactement. Pour l'instant, il n'y a que Mobistar qui le fait. Et de toute façon, comme on a eu en Belgique ce fameux changement qui maintenant autorise la vente conjointe, ben on pourrait très bien se situer, on pourrait très bien se retrouver dans une situation comme en France, par exemple, où on arrive à des ventes subsidiées. Et donc, par exemple, l'abonnement pour 2 ans et l'iPhone à 1 euro. Pourquoi pas? En tout
Ah,
cas, c'est à apprécier
tu
peut-être.
l'espères, hein? Bon,
Non,
en
je ne
attendant.
l'espère pas forcément parce que je prends toujours mes iPhones sans aucun abonnement, en dehors de tout. Mais disons non, peut-être que ça pourrait faciliter la plus grande pénétration du marché
Tout à
pour
fait,
certains
la
modèles.
pénétration le samedi après-midi. Bon, j'en reviens à mon ACR que j'ai pas terminé. Ils ont lancé un dernier smartphone, un truc gigantesque qui faisait du 4,8 pouces, enfin le téléphone qu'on doit élargir sa poche. C'était
T'es sûr que
franchement.
c'est pas une mini tablette à la place?
Non, ils l'ont classé comme étant un téléphone, mais
4,8 pouces.
c'est gigantesque.
Attends, déjà le HD7, il avait le HTC HD7, il avait un écran de 4,2 pouces. C'était monumental.
Donc là, on dirait une petite tablette de jeu, genre ou une PSP. Et en fait, non, pour eux, c'est un téléphone. Bon, bah, voilà, Acer, pour moi, désolé les gars, mais ça s'appelle plus vraiment un téléphone. Ou alors, c'est les téléphones comme on faisait dans les années 90, les transportables. Et bon, voilà, après lui, il faisait 8 mégas, un 8 mégapixels, flash LED, 720p, tout le bazar, mais 500 euros le téléphone. Et le processeur, par contre, on était juste un simple 1 GHz. On pouvait se dire, allez, ils vont nous sortir des dual cores comme les petites tablettes, mais non, rien. Ou comme le Motorola Atrix qui n'est pas encore vendu chez nous, mais
Ah, tu l'attends celui-là, hein.
ah, je l'attends, je l'attends. J'ai l'Atrix, comme on
T'as
dit.
la Trix, comme on dit. Oh,
Ouais.
joli! Mais c'est samedi, vous l'excuserez.
Alors, bon, et par ça, non, c'est vrai, c'était les tablettes, hein, qu'ils voulaient montrer, hein. Les smartphones, c'était un peu le petit côté avec un peu moins de lumière. Mais au niveau tablette, ils ont sorti des trucs qui étaient pas mal. J'étais assez ravi d'avoir quand même vu ces petites tablettes. Il y en avait une sous Windows, Là, tout de suite, attention, la tablette, elle était horriblement lourde. Et question autonomie, on était dans les 5 heures, dans les environs de 5 heures, 4 heures, un peu plus de 4 heures. Parce que eux, ils les comparent à un netbook. Et en fait, oui, c'est un gros netbook sans écran, sans clavier, sans écran. Sans le clavier. Et pour justement ceux qui veulent l'utiliser en netbook, ils ont un clavier qui est et sur lequel on peut déposer bravement sa tablette
Ouais.
et qui se transforme en netbook. Donc c'est pas trop mal si on veut effectivement acheter un netbook sous Windows. Ah, autant acheter celui-là, il est pas mal. On peut avoir tablette d'un côté, netbook quand on en a envie. Et
Et le prix?
le prix, alors ça allait de 4,99 à 749 suivant les options. En gros, c'est suivant la taille du disque, c'était du SSD, et suivant le fait qu'on veuille ou non une option 3G. Là, c'est la même chose sur la. Ça, c'était la W500. Il y avait une A500. W500, bah, vous avez compris, c'est pour Windows. A500, bah, c'est pour Mac.
Android.
Oh, t'es fort, t'es fort. Et
Et
là,
pourtant,
on
c'est
a.
samedi.
Ah oui, très fort quand même. Mais ils n'ont pas de i500. Hein. On s'arrête à la A500. Donc là.
On a un iPad pour ça. Deux.
Oui, d'ailleurs, autant pour moi, je trouvais que les iPads, ils étaient lourds à leur sortie. Ici, le A500, eh bien, il est aussi lourd que notre bon vieux premier iPad, même 20 grammes de plus, je pense.
Exactement, oui.
Et donc ça fait un peu mal au poignet après quelques minutes. La tablette hein, là, qui fait mal au poignet.
Mais ce que
C'est
tu fais avec
du.
tes tablettes ne te nous regarde pas en fait.
Ce n'était pas ma tablette en plus. Donc c'est
Mais ce que
du.
tu fais ne nous regarde pas du tout en fait.
C'était du 10 pouces et ils ont ici un dual core, s'intégra 2. Et c'était. Ça donnait pas mal. Avec une petite sortie HDMI pour faire du full HD et puis une caméra 5 mégapixels, 2 mégapixels en fond, en frontal, etc. Alors question prix, c'était pas mal plus accessible que la Xoom dont tout le monde nous parle
Mais
et
qui
que
reste
j'attends
horriblement
aussi.
cher.
Ouais, ici c'est 4,99 en Wi-Fi et 5,99 avec la 3G.
Et alors, ce qui est marrant, c'est que tous ces prix ne sont pas des prix qui ont été choisis au hasard. En fait, simplement, ils se sont alignés sur les prix de l'iPad, qui, comme on l'a mentionné dans notre précédent podcast, mine de rien, sont extrêmement agressifs pour ce genre d'appareil, parce que 4,99, 4,49 pour un appareil d'entrée de gamme, bon, ça reste quand même relativement abordable. Bon, c'est pas donné, évidemment, mais ça reste relativement abordable. La Xoom, elle avait démarré à 8,99. C'était abominable, ce truc, quoi. Et en plus, il fallait payer à l'époque pour te faire débloquer le Wi-Fi.
Oui, maintenant, la Xoom, elle va arriver en Belgique bientôt. Qu'est-ce que
À
je vois?
6,99, je crois.
Alors, je la vois à 709 chez Coolblue avec la version 3G et à 609 pour la version en Wi-Fi uniquement. Donc, 609 TVA comprise.
Et quelle estimation? Ils donnent déjà une date?
Non, il ne donne pas encore de date. Mais normalement, c'était prévu pour le deuxième trimestre. Et ça tombe bien, on y est. Dans les tablettes, il y avait aussi à noter qu'ils ont sorti une A100. Bah, en gros, c'est la petite sœur de la A500 qui a exactement toutes les mêmes spécifications, sauf que l'écran, c'est une 7 pouces ici, donc c'est beaucoup plus petit et ça va de 3,49 à 4,49. Ils parlaient aussi de façon assez amusante, mais ils n'ont pas donné beaucoup de détails. C'est que j'ai oublié si c'est le troisième ou le quatrième trimestre, mais je pense que c'est le troisième trimestre. Ils allaient nous sortir une tablette en 7 pouces avec de la 3D.
Une tablette 3D.
Une
Oui, on
tablette
sait.
3D.
Oui, ils ont déjà sorti un téléphone 3D. Je ne sais pas si c'est Acer qui l'a fait, mais il y a une marque qui a sorti un proto de téléphone 3D qui utilise grosso modo le même système embarqué sur la 3DS. Donc on y revient toujours. Oui, après tout, pourquoi pas. Bientôt, on aura de la 3D dans les micro-ondes, on aura de la 3D dans les frigidaires. On pourra peut-être avoir la 3D dans les toilettes aussi, j'en sais rien, mais.
Je sais pas si toi t'as. Enfin oui, tu l'as vu, on avait été le regarder ensemble, le truc 3D au salon Entreprendre, c'était salon Entreprendre cette semaine.
Oui,
Et il y avait
effectivement.
une petite pyramide, on s'est posé la question de comment ça fonctionnait, mais là c'est plus de la 3D, c'est carrément.
Là, c'est non, si c'est de la 3D,
C'est de
oui et non.
l'holographique.
C'est de l'holographique en fait. C'est un système d'affichage dans une matrice de gaz. dont les molécules sont excitées par différents rayons
Le
laser.
samedi, elles sont excitées.
Et le samedi, elles sont excitées, effectivement. Mais ce qui est assez, enfin, ce qui est assez exceptionnel dans le modèle qu'on a pu voir, qui est un outil totalement promotionnel, mais de taille extrêmement réduite, hein. On parle d'un truc qui
Ouais,
permet
ça fait 30
d'afficher des
centimètres de
images,
haut
voilà,
et
cette
les
taille-là.
images, ça avait la taille de quoi
Bon, ça avait maximum 10 à 15 cm de. Elle tenait dans un cube de 10 à 15 cm. Mais ce qui était assez amusant, c'est qu'ici, il travaillait avec trois lasers. Je me suis un peu renseigné sur la technologie après. Il travaillait avec trois lasers, un rouge, un vert, un bleu, évidemment. Et donc, vous comprenez tout de suite que ça vous permet d'avoir des images animées en 3D holographiques, en couleur. Et il faut dire d'ailleurs que quand on est devant l'image, le résultat est assez bluffant. Maintenant, bon, question d'angle de vue, c'est clair, on est très loin d'une dalle IPS ou d'une dalle LED classique. Vous avez 15 degrés d'un côté, 15 degrés de l'autre, et puis après, vous perdez tout. Mais quand vous êtes face à l'objet, c'est assez bluffant comme effet.
C'était pas mal, hein. Moi j'ai bien aimé, j'étais assez. Je m'attendais pas d'ailleurs à le voir dans ce type de salon, mais comme l'imprimante 3D non plus, hein, qu'on nous
Oui,
annonce comme
l'imprimante
étant
3D.
la prochaine révolution du web, on en a parlé sur TechCrunch il y a quelques semaines,
Encore de la 3D.
encore de la 3D. Ici, il y a quelques sites où vous pouvez faire votre modèle 3DS, et ici c'est pas la console, c'est vraiment des.
Le format de fichier,
Le
oui.
format, et vous l'envoyez sur le site, vous choisissez un petit peu le type de finition, les couleurs, et c'est parti, vous pouvez avoir votre objet 3D à vous, en plastique, hein, en gros.
Oui, en fait, il y a toujours deux technologies, je crois, qui se partagent le marché. Il y a la lithographie résine, donc en fait avec un laser qui solidifie couche par couche un bain de résine, et donc qui grave en 3D, si on veut, à partir d'un bain de résine liquide. Et le deuxième modèle, c'est de la lithographie plastique solide. Donc de toute façon, c'est une solution qui est assez encombrante, hein. C'est pas le genre d'imprimante que vous allez pouvoir stocker dans votre bureau à côté de entre votre petite HP laser et votre Canon jet d'encre. Non, faut quand même déjà en avoir une utilité industrielle pratique. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des petits bureaux d'études qui font de la modélisation ponctuelle et qui doivent passer par un fournisseur externe pour la modélisation, la fabrication des pièces, on va clairement arriver à un positionnement qui va très vite trouver un débouché sur le marché. Par contre, côté prix,
C'est hors de prix, hein,
c'est
pour un
hors de prix ce
consommateur.
genre d'appareil. Oui,
Oui, mais
effectivement,
même
on peut
après,
l'oublier.
pour l'impression, c'était faire imprimer un porte-clés, c'est enfin, voilà, on arrive vite à 50 euros pour un objet ridiculement petit.
Oui, parce que la matière première coûte cher, et également parce que bon, l'entretien du système en lui-même est relativement onéreux.
Enfin, ça ne demande qu'à
Qu'à se
évoluer un peu.
développer, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on
Alors,
a encore dans les autres news cette semaine? Tu en
ah
avais.
ben, j'en ai vu une qui m'a fait un peu sourire, parce qu'on a de nouveau l'impression que le web, en fait, en fin de compte, quel que soit le sens dans lequel on le prenne, c'est un éternel recommencement. Et ce qui m'a fait rigoler, en fait, c'est Google
Plus
qui
un.
lance son service plus 1. Alors, Google plus 1, c'est quoi? Eh ben, c'est le like de Facebook, mais adapté aux recherches de Google. Donc en fait, vous faites votre recherche sur Google, vous avez la page de vos résultats, et là, vous avez le service plus 1 qui se matérialise sous la forme d'un petit bouton.
Soit
Vous
dit en passant, moi
pouviez.
je viens de l'ouvrir, j'ai rien du tout, hein.
Oui, en fait, c'est en cours de déploiement pour l'instant.
OK.
Ce n'est pas encore déployé partout. Si tu prends un proxy US, tu verras, ça y est déjà. Donc en fait, vous avez la possibilité de liker vos résultats de recherche. Et en fait, ça permet quoi? Ben, ça permet de vous profiler encore plus au niveau de votre profil. Voilà, profiler le profil, beau pléonasme, c'est samedi, merci, on me pardonnera. Donc, ça permet encore de rendre encore plus pointu le profil que Google a de vous. Et cela, en fait, je voudrais le mettre en parallèle avec une autre news qu'on a vue sortir cette semaine, qui est un peu le monde à l'envers. Cette fois-ci, c'est Microsoft. Toujours nos copains
Oui,
de
très,
Microsoft,
ouais,
qui
très drôle.
intentent une action devant l'Union européenne contre Google. Et devinez pourquoi, abus de position dominante. Et là, en fait, on se retrouve, excusez-nous, mais c'est à mourir de rire, ce genre de choses. Bon, C'est à mettre en parallèle avec une autre petite considération qu'on a entre CB et moi, où en fait on se dit que toutes les petites startups qui se lancent sur le marché passent plus de temps à se tirer dans les pattes à coup de
Oui,
procès qu'à
c'était
faire
pas de moi, hein.
leur business.
Tout à
Non,
fait. Il y avait tout un article business. C'était un site américain et ça a été retraduit sur TechCrunch France.
exactement. Mais bon, le parallèle ici est quand même assez flagrant. D'un côté, vous avez des sociétés monopolistiques établies qui ont pignon sur rue, qui pèsent des milliards de dollars et qui en fait passent leur temps à faire les gamins dans un bac à sable et à se taper des procès l'un à l'autre parce que monsieur il a fait ça, regarde monsieur il m'a piqué mon jouet. Et en gros, c'est ça. Maintenant, derrière ça, il y a le fait qu'avec toute la prolifération de Google à tous les niveaux, et je ne parle pas simplement de Google News, Picasa, Actualité, Newsreader, Calendar, tout ce que vous voulez, Gmail, tout, plus la déclinaison en Android, plus tout ce où Google peut être aujourd'hui, Google commence vraiment à apparaître comme le Big Brother.
Ah oui, je sais
Et
pas si
ça,
on allait en parler
finalement,
aujourd'hui et on fait notre dernier gros sujet là-dessus.
on peut faire notre dernier gros sujet, on va pas embêter les gens, parce que de toute façon, si on devait en parler en détail, bon, on peut en parler des heures, mais
Non, mais justement, on devrait essayer de réfléchir à qu'est-ce
Google
qu'ils ont
devient
sur
le
nous.
Big Brother. Mais qu'est-ce qu'ils ont sur nous? En fait, ce qu'ils ont sur nous, c'est un peu ce que Facebook a sur nous, à savoir
Tu rigoles,
les
ils ont 10
informations.
fois plus que
Oui,
ça.
mais je parle de la base. Je parle de nouveau, ce que Google a sur nous, c'est comparable à ce que Facebook a sur nous. C'est-à-dire, il y a deux choses. Premièrement, il y a les infos qu'ils génèrent automatiquement. Bon, ça, on a beau tourner dans tous les sens, les algorithmes d'extraction de données de Google sont probablement à des années-lumière de ce qu'on peut imaginer en termes d'efficacité, et donc ils savent déjà probablement une foule de choses dont nous ne soupçonnons pas la moitié. Par contre, Google compte aussi beaucoup sur des démarches volontaires, et ces démarches volontaires visent à ce que l'internaute, l'utilisateur, alimente en contenu les informations qu'il confie à Google. Alors ça, d'un côté, c'est la démarche d'aller choisir Google pour gérer ses mails, que ce soit un mail indépendant ou bien un Google
Mais
for
si tu permets d'ailleurs
Domains.
sur les mails, c'est cette semaine-ci justement qu'il y a eu un petit scandale parce que Google sur Gmail propose de la publicité depuis quasi le début. Mais les gens à l'époque c'était au secours, je veux pas qu'on lise mes mails, je veux bien qu'on fasse de la pub, mais il faut pas que Google analyse le contenu de mes mails vu que c'est privé. Maintenant Google a franchi l'étape d'aller analyser les mails que vous recevez. Ils vont analyser les domaines qui vous envoient des emails et suivant les domaines qui vous écrivent, si c'est par exemple un magazine qui s'adresse au smartphone, eh ben ils vont créer un profil sur vous, sachant qu'ils Il dit, ben voilà, Monsieur X, il aime bien les smartphones, Monsieur X, il aime bien la pêche, Monsieur X, il aime bien le
Mais
barbecue avec les filles à poil, et ils vont vous faire de la publicité ciblée sur vos mails.
ça, je vais te dire, ils n'ont pas attendu pour le faire. Il n'y a pas si longtemps, je crois que ça remonte à peu près 2 mois, Google a fait une update release de son Gmail, de son interface Gmail, où ils ont créé ce qu'ils appellent la inbox prioritaire. Et en fait, ça permet quoi? C'est un système de reconnaissance contextuelle basé sur certains mots-clés, sur certains tags, qui sont définis soit à la volée, soit de manière totalement automatique, et qui en fait prioritise les mails entrants selon leur importance. Mais cela présuppose, pour tout informaticien qui réfléchit 2 secondes, d'aller parser le contenu des mails. Donc il ne se gênait déjà pas pour le faire.
Non, mais
De
si, ils vont
toute
l'utiliser
façon,
pour la pub.
est-ce que quelqu'un a déjà pris la peine de lire les conditions d'utilisation de Google? Franchement, est-ce que toi tu as
Oui,
déjà...
oui, j'ai déjà lu quelque chose. Je sais qu'il y avait moyen, en tout cas, de pouvoir aller dire à Google que je ne veux pas qu'il stocke certains cookies pour ne pas transférer des données, en tout cas de site à site. Il y a quelques moyens pour dire à Google, ne m'emmerde pas trop. Mais dans l'ensemble, Google, il sait tout sur vous, il sait tout sur l'humanité. Parce que la première fois dans l'histoire où Google m'a fait un peu tilter, c'est à l'époque où ils ont racheté la société qui avait l'historique de tous les newsgroups. À l'époque, Google, ils avaient déjà le plus gros moteur de recherche au monde, où ils savaient tout sur tous les sites, ils savaient toutes les images sur tout le monde, ils avaient référencé toutes les vidéos, ils ont référencé maintenant tous les blogs, et d'un coup, ils ont réussi à récupérer quelque chose
tout Usenet.
qui est tout Usenet, qui appartient un petit peu au monde. Et il n'y a que qui en avaient cette exclusivité, parce que pas mal de browsers Usenet, enfin sur pas mal de serveurs, on ne s'est pas remonté aussi loin que ce que Google a.
On parle de quoi
Mais ça remonte aux années 90.
Ah, carrément!
Oui, moi j'ai posté des choses dans les années 90 sur les newsgroups et Google monte juste, sans problème jusqu'aux années 90. C'est vraiment depuis le premier jour, ils ont tout récupéré. Et même si je ne me
Tu
trompe,
imagines ce que
y a
ça
des choses
représente?
avec Fidonet jusqu'où ils sont montés vraiment au début du début du début des...
Tu t'imagines, tu te représentes ce que ça signifie en termes de volume d'informations?
C'est gigantesque. On y
C'est
retrouve
monstrueux.
d'ailleurs le premier message où Linus parle de Linux. Il annonce au monde et c'était dans un message du newsgroup. C'était assez amusant à
Attends,
retrouver.
je vais mettre en pause parce que c'est mon fils sûrement. Voilà. Donc on en était où?
Ah, Linus,
Oui, le premier message de Linus.
ils ont tout. Ouais. Ils ont vraiment un historique monstrueux. Mais ça, les gens s'en rendent pas bien compte. Mais après. Avec les années, ils ont commencé à amasser d'autres types de données. Ils ont commencé à faire les photos de notre belle Terre, les photos de la Lune, des photos avec StreetMap de je peux savoir où est tout le monde dans la rue. Ils ont indexé tous les Wi-Fi parce que c'est assez c'est génial hein, maintenant quand vous connectez un Wi-Fi, Google sait dire où vous êtes, mais il faut se poser des questions. Comment est-ce qu'ils le savent? Ils ont tout indexé, c'est brave.
Exactement.
Ils ont les photos de la moitié de la planète et puis ils ont sorti leur Android. Android, c'est génial, c'est open source. Je l'utilise, je l'adore, mais grâce à Android, mais maintenant ils savent tous vos contacts, qui vous téléphonez, votre historique de contact, votre historique d'appel, les SMS ne sont pas encore synchronisés, mais ça ne saurait tarder. Un jour, ils le feront certainement pour que les gens ne perdent pas le SMS d'une machine à l'autre. Ils savent où vous êtes grâce à Google Latitude et ils savent vous suivre en permanence. Ils savent où vous allez en voiture grâce à Google Navigation. Et alors mieux que ça, ils ont au fur et à mesure que le temps passe, ils réussissent à avoir beaucoup de monde sur Google Navigation. Maintenant, ils peuvent lancer le Google Traffic, je ne sais pas s'ils l'ont appelé ça comme ça, mais qui permet de grâce aux données récupérées sur les trajets de tous ceux qui utilisent Google Navigation, ils peuvent vous dire quel est le chemin le plus rapide à une heure précise, parce qu'il y a, y a, y a 1 000 cons qui se sont fait bloquer dans les embouteillages avant vous. Et
Mais
donc,
je crois que ça, ils l'ont déjà développé, ils l'ont déjà lancé
ça l'est, ça y
officiellement
est. Oui.
sur les US.
Tout à fait. Donc, quand on se pose les questions de qu'est-ce qu'ils savent sur nous, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils ne savent pas encore sur nous. Les recherches, il y avait tout un temps, voilà.
Y a encore quelque chose qu'ils savent, et qu'ils, bon, pas encore au niveau européen, mais qu'ils savent déjà au niveau américain, c'est votre dossier médical avec Google Health,
Tout à fait, tout à
en
fait.
plus.
Il y a
Donc,
un autre truc
effectivement, ils savent absolument tout.
sur la recherche qui m'a fait tilter à l'époque quand ils l'ont changé, c'est que à l'époque vous faites une recherche sur informaticien, vous allez tomber sur la première page, c'est on l'espère informaticien.be et le lien était en dur, informaticien.be, vous cliquez, Google ne sait pas que vous avez cliqué ou il ne sait pas vers quoi vous êtes sorti. Ça vous pouvez maintenant complètement l'oublier, Google il sait complètement tout ce que vous cliquez. Il n'y a plus aucun lien en dur. C'est à chaque fois une redirection via Google qui permet, je suppose, après eux de classer. C'est toujours le sacro-saint argument, hein, c'est pour redonner des meilleurs résultats, mais en définitive, ils savent de plus en plus de choses. Et donc maintenant, il n'y a plus moyen de cliquer sur un lien de Google, sauf peut-être s'il y a des extensions pour les navigateurs, sans savoir que, enfin,
Il y
sans
en
que
a
Google ne s'en trouve.
quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Il y en a une d'ailleurs, puisqu'on en parle. Il y en a une qui est excellente, qui hélas n'est pas encore entièrement compatible avec Firefox 4, sur lequel moi je viens de passer. D'autres y sont depuis longtemps. C'est une extension qui s'appelle Customize Google, qui fait merveille sous Firefox 3, qui existe également étonnamment pour Chrome, s'appelle Customize Chrome, et qui permet de débrancher, mais absolument tous les outils de tracking que Google a sur vous. Dans Google Search, Google News, Google Images, Google tout ce que vous voulez.
Oui, alors on a encore oublié deux ou trois outils énormes de Google. Google, ils savent pas, ils ont les recherches, et puis qu'est-ce qu'ils nous ont rajouté? Le Google Calendar, je l'adore, je l'utilise avec ma femme, je trouve ça au boulot, c'est génialissime, mais ils savent, ils connaissent l'heure de mon rendez-vous chez le dentiste, ils savent l'anniversaire de ma fille, tout y est,
Et
à
puis
la minute.
Google Docs,
Google Docs, où il y a effectivement encore des
énormément
documents, tout à
qui
fait.
peuvent parfois être confidentiels.
Tout à fait, tout à
Mais je
fait.
ne pense pas qu'ils iraient. Et puis Google Talk, tout simplement, qui même s'il n'est pas aussi répandu que les autres protocoles de com, ben là-bas, c'est basé sur du Jabber, donc c'est intercompatible et probablement que via ça, ils ont aussi accès à une bonne base, quoi.
Et on a encore aussi YouTube et Picasa.
YouTube et Picasa, exactement. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous regardez, il est à parier que Google a déjà un pied dedans et qu'il vous sert, ça c'est certain, mais probablement qu'il vous espionne aussi un petit peu. Maintenant, ces
Alors, il vous
données, à
y a un
quoi ça
dernier outil, il y a
sert?
un dernier outil que Google a sur énormément de sites où les gens ne se rendent même pas compte qu'ils donnent des infos à Google, c'est Google Analytics.
Oui, ça également.
Google Analytics, c'est utilisé par des
Des millions
millions
de sites
de
dans le
sites, ouais,
monde.
pour savoir justement profiler qui vient chez eux, mais à qui profite le crime,
À
si on peut
Google,
dire,
évidemment.
Google.
Maintenant, bon, Google a toujours, même s'ils ont une masse d'informations absolument titanesque à leur disposition, et certainement tous les algorithmes pour les recroiser et en faire quelque chose de relevant, comme dirait quelqu'un que nous connaissons bien. Google a toujours un peu cette image de société, un peu à la Apple, société
Oui, c'est des
sympa,
gentils, ils vont rien
gentil,
faire de
baba
mal.
cool. Maintenant, dans quelle mesure est-ce que cette image n'est pas une image soigneusement contrôlée, entretenue à coup de centaines de millions de dollars en marketing, soigneusement calibrée, étudiée? Bon, vous savez, on dit toujours, si tu ne veux pas devenir paranoïaque, arrête de l'être.
Ouais,
Donc,
mais c'est vrai que ils ont une très bonne image. Il y a d'autres boîtes qui, à un certain moment, ont eu une très bonne image et qui sont passées du côté obscur, en tout cas d'un point de vue image.
on parle toujours de le même copain.
On parle toujours les braves Microsoft. Et quand on voit la différence avec Microsoft, Microsoft a quand même été encore reconnu le meilleur employeur de l'année. Et c'est vrai que pour être beaucoup passé chez eux, pour différentes conférences de presse, pour connaître pas mal de gens chez eux, l'ambiance chez Microsoft est terrible. Elle est vraiment.
Convivial.
Oui, c'est assez génial. Je veux dire, si je devais pas être indépendant et si je faisais pas le métier que j'adore pour le moment, c'est peut-être une des boîtes dans laquelle je serais content de bosser parce que, oui, il y a une bonne ambiance dans les bureaux, il y a une volonté de pouvoir te faire évoluer, il y a pas mal d'opportunités. Et en Belgique, ils emploient encore beaucoup de monde. Hein. Donc c'est vrai, le premier employeur de l'année, donc le meilleur employeur, c'est en Belgique qu'ils l'ont reçu, hein, ce titre. Donc c'est... Bon, ils ont plein de choses, on a plein de choses à reprocher à Microsoft. Mais bon, pas tout. Tout
Pas tout,
n'est pas
effectivement.
noir, le tableau n'est pas si noir que ça chez eux. Et puis, ils essayent de défendre leur beefsteak comparé par rapport à d'autres sociétés comme Google.
De toute façon, pour faire un parallèle avec une autre activité que
Tu as
certains nous
le temps
savent
pour d'autres
pratiquer.
activités?
Oui, non, j'ai le temps pour d'autres activités, toi aussi d'ailleurs, mais
C'est dingue.
je veux dire, pour faire le parallèle avec notre activité dont certains sauront de quoi on parle,
Oui, non, on ne peut pas vous le dire, mais on travaille dans l'industrie adulte du film.
travailler ça l'est maintenant, voilà, ça y est, maintenant c'est grillé, et tu vas voir, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je vais dire. Non, Google, en fait, a vos données, a énormément de données sur vous, mais en échange, Google vous donne une foule de services super sympas, super pratiques, et il vous les donne gratuitement. Et de
Oui,
nouveau,
c'est comme ça
c'est un
qu'on
trade-off,
lèche.
c'est un deal, et c'est comme ça qu'il vous attrape. Donc finalement, on en profite des deux côtés.
Oui, en espérant que toujours ça reste. Ça reste gratuit de la part de Google, parce que si effectivement leurs revenus, qui sont quasi exclusivement tirés de la publicité, devaient s'effondrer un jour, ben, il faudra qu'ils rentabilisent le reste de leurs services. Parce que tout ça, c'est Android, le calendar, la vidéo, YouTube, tout le bazar, tout ça,
C'est gratuit à
c'est gratuit.
100%.
C'est gratuit. Les gens sont habitués à ne pas devoir payer pour utiliser ces services qui coûtent la peau du cul.
Exactement.
En hébergement, en maintenance, en
En ressources,
modération.
exactement. Donc voilà.
Donc on ne se rend pas toujours compte que oui, ça a un prix. Dans les grosses news, je
Je
voulais
crois
quand
qu'on
même
a fait le
notre truc.
tour. Oui,
Non, non,
tu as
non, il y
encore
en a
autre
quand même.
chose?
Oui, ben, il y en a une, tu l'as abordée brièvement. Il y a eu énormément de sorties de navigateurs
Oui.
en 2 semaines ici. On a eu le Firefox 4 qui est finalement arrivé en version finale. On a eu ce brave IE9. On a eu une nouvelle version, je pense, d'Opera aussi, certainement, même si je suis moins fan.
Une release mineure, je crois.
Oui,
On a eu
et
Chrome
Chrome.
11 qui est passé en version 11. Bon, deux mots rapidement. Firefox 4, nouveau moteur qui adopte complètement les standards du CSS 3, qui supporte les trucs les plus exotiques, style CSS Transform 3D, etc. Oui, ça marche bien, c'est sympa. Honnêtement, je lui trouve pas mal de ressemblances avec Chrome.
Oh, qu'il est vilain. Mais t'es un fan de Chrome depuis la première minute. Hein.
Je suis un fan des deux, en fait. Je travaille avec les deux en parallèle. D'ailleurs, là, au moment où je vous parle, j'ai Google ouvert sur Firefox et j'ai informaticien.be ouvert sur Chrome. Et voilà, je travaille en parallèle avec les deux. Ce sont mes deux browsers favoris. Ils l'ont toujours été. Disons que le foin qu'on a fait autour de Firefox 4 et le temps qu'il a fallu pour le sortir me laisse un petit peu un goût de pas assez dans la bouche quand je joue avec. Maintenant, bon, ça ne fait que
Oh, il
deux
te laisse un goût
jours
de pas assez dans la bouche, quoi.
quand je joue avec.
Excuse.
On est samedi, fais pas chier. Mais quand je vois les autres qui barbecuent à côté, ça me donne envie. Oui, ils sont toujours en train de
D'avoir un goût dans la
barbecuer.
bouche, mais c'est dégueulasse!
Oui, une bonne brochette, ça va, t'es content quand on a arrêté jusqu'au bout. Par contre, IE9, puisqu'on en parle, pour avoir un peu joué avec et pour avoir, bah forcément, vu que vous savez tous que l'un de nos violons dingres, c'est du développement de site, ils ont réussi encore à le foirer, à mon avis. C'est-à-dire que des trucs qu'on a calibrés, pompés à mort pour que ça tourne sous IE6, IE7, IE8, à coups de hack, on s'imagine même pas, il y a plus de hack dans le CSS que de règles de base. Eh ben, sous IE9, ça arrive encore à foirer.
Super.
Alors, je sais pas, mais Microsoft, s'il vous plaît, arrêtez de pousser les gens à prendre un IE et à foutre un Google Frame dedans. Faites un navigateur qui fonctionne et qui ne réinterprète pas à chaque fois et le JavaScript, et l'HTML, et le CSS. S'il vous plaît. Voilà,
Oh,
le
qu'il
cri
est
est
dur.
lancé. Non, je suis pas dur, j'en ai marre.
Oui, c'est du boulot, hein. Mais heureusement, IE6 est en train d'enfin disparaître. Mais Firefox 4, j'aime bien. Moi, il y a leur petit truc. Déjà, il est plus rapide, donc c'est sympa.
Ça, c'est vrai, par contre.
Et
Il est toujours pas aussi rapide que Chrome.
non, 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 mais Chrome, voilà, ne supporte pas encore non plus tout, tout, tout. Il n'est pas encore aussi mature, peut-être, que Firefox en extension. Quoique, c'est vrai qu'il a pas mal évolué, hein,
Ah,
je
il a
trouve.
évolué énormément et quasi toutes les extensions que l'on trouve sous Firefox se retrouvent sous Chrome aujourd'hui.
Ouais. Et le gros avantage de Chrome, c'était aussi sa séparation. Quand ton plugin se plante, t'as encore ton navigateur. Je sais pas si Firefox 4 l'a enfin fait. Ça, j'ai pas
Je
fait. J'ai
crois
pas encore.
non, je crois qu'en fait Firefox qu'il a implémenté en fait par rapport à Chrome, c'est la séparation un tab égale un thread.
Ok. Par contre, ce que j'aime très fort sur Firefox 4, c'est deux petites choses qui en fait auraient certainement pu être implémentées sur une autre version. C'est le fait de pouvoir faire un pin de la tab, et donc on n'a plus qu'une toute petite icône. Donc je laisse toujours deux trois sites qui sont toujours ouverts et qui me prenaient toutes mes tabs, mais maintenant ça me prend plus qu'un quart de mon écran. Donc j'ai enfin récupéré une place pour surfer sur d'autres sites. Et c'est pas pour autant que j'irai sur d'autres sites, mais on ne sait jamais. Et un autre truc que j'aimais bien, je l'ai déjà oublié, faut dire, ça m'a frappé. Oui, c'est toutes les alertes JavaScript. Les alertes JavaScript qui avant bloquaient tout le navigateur si vous en aviez, si vous faisiez une boucle de alerte, vous étiez bon pour faire un task du navigateur. Maintenant, les alertes sont dans la page du site. C'est-à-dire que s'il y a 1000 alertes, vous fermez juste la tab et c'est parti. Ça, je trouve vraiment une avancée que ben, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, quoi.
Mais en fait, ça revient à faire un thread par tab.
Oui,
Et donc, en
c'est.
fait, c'est là qu'ils ont copié le système que Chrome a adopté depuis le premier jour et qui permet effectivement, bon, au début, c'était au détriment d'une certaine occupation mémoire assez gargantuesque, mais dans les dernières versions, depuis la version 7 carrément, l'empreinte mémoire est devenue quasi négligeable.
Ouais, tant qu'elle n'est pas
Effectivement,
devenue
voilà.
négative, sinon on a un problème.
Oh,
Mais
pourtant, c'est mieux ça, c'est bien.
sur Chrome, tu as une alerte qui est dans la page ou qui est en dehors de la page? Tu vois ce que je veux
Si
dire?
tu as un tab qui est planté parce que tu as une boucle JavaScript ou autre chose, bah tu fermes le tab et c'est fini.
C'est magnifique. Peut-être
C'est
qu'un
pour la
jour,
vie,
faudra
hein.
que j'essaye de jouer avec Chrome, hein.
Tu devrais. Et normalement, le concept a été repris, si je ne m'abuse, dans Safari et dans Opera, pour autant que je
Explorer
sache.
9,
Non.
peut-être?
Ah, je sais pas, j'ai pas encore vérifié. Faudra que je code une boucle alerte en vitesse, tiens.
Oui. D'autres news avant qu'on ne clôture?
Et que j'aille revoir mes barbecuteurs? Non, pas que je sache. Je crois qu'on a fait le tout. De toute façon,
Oui, on se reverra, mais on
on se
l'espère un
reverra. Et de toute
peu
façon,
plus
toute
vite
l'info.
que cette fois-ci, parce que cette fois-ci, il y avait 3 semaines, mais on a eu des semaines un petit peu délirantes. On va essayer de faire ça une semaine sur deux.
Et de toute
On va
façon,
essayer.
l'info continue tous les jours, pas sur RTL TVI, non, mais sur informaticien.be.
Tout à fait. Alors j'ai encore une dernière annonce à faire. Cliquez sur les... Non, pas cliquer sur les pubs, pas ça. Non, il y a un
Si, si, si,
concours.
cliquez sur les pubs, cliquez sur les pubs.
Y a un
Parce que nous, on
concours.
clique pas dessus.
Comment ça? Non, il y a un concours qui jusqu'à la fin avril. Hein, comme en gros, il y en a toujours un ou l'autre qui tourne, mais il faut bouger son. C'est fait, c'est faire une photo. Ici, c'est pour quoi? C'est pour deux jeux PS3, Bendis, Cosmic Destruction. Alors, qu'est-ce qu'il faut nous faire comme photo? C'est moi qui l'ai fait. Je vais... Oui, une photo d'un étang. Allez, avec un petit logo du site. C'est pas très difficile à faire. Hein. Vous mettez le logo informaticien ou Photosé. Et vous me faites une jolie photo, et avant la fin du mois, les deux premiers votes, enfin les deux meilleures photos auront le jeu sur PS3.
Alors maintenant, avant qu'on vous laisse à votre week-end, moi je voudrais aussi passer un petit message. Bon, le podcast, vous l'avez vu, c'est du pur délire, c'est de la grosse impro, même pas peur, mais on aimerait quand même bien pouvoir structurer un peu la chose. Et si vous avez des idées, si vous avez des suggestions de sujets, si vous avez des trucs dont vous voudriez qu'on discute en live, et vous pourriez d'ailleurs vous-même participer et venir nous raconter les trucs qui vous intéressent, eh ben n'hésitez pas. Vous nous envoyez un petit message privé à Zion ou à Clandestino, et nous on s'occupera de classer, de faire suivre et d'organiser tout ça. Après tout, bon, c'est notre site, mais c'est le vôtre aussi, donc faut le faire vivre.
Oui, la seule chose qu'il vous faut, au minimum, c'est 18 ans, une forte poitrine.
Et
Non.
Skype.
Oui, Skype, surtout Skype. Et un bon micro, hein, parce que, écoutez, c'est un bon minimum pour vous entendre.
Voilà.
Voilà,
Donc
passez
c'était fini.
une bonne semaine.
Voilà. Et ben on se retrouve d'ici 15 jours. Et en attendant, à très bientôt sur informaticien.be. Ciao les potos.
Salut les filles.